pour le podcast Enfanter et devenir.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Enfanter et devenir, un podcast dédié au récit de naissance à soi et au monde.
Naître à soi et naître au monde. Des temps de passage forts qui peuvent revêtir des réalités bien différentes. Bienvenue dans Enfanter et devenir, le podcast dédié à l'accompagnement respectueux des enfants, mais aussi à l'empouvoirment via la parentalité. Après 2 saisons, axées sur des récits de naissance uniquement, il va y avoir du nouveau. Ça va être un joyeux bazar ici. Alors préparez-vous à être inspiré, informé et motivé dans votre parcours de parent, mais pas que. Ici, nous explorons ensemble les différentes facettes de ce merveilleux voyage qu'est la parentalité, en mettant l'accent sur l'accompagnement respectueux des parents et des enfants, mais aussi sur l'écologie, parce que bon, on n'en parle jamais trop. Je suis ravie de vous retrouver seule ou avec des invités pour partager des réflexions, des expériences inspirantes, des astuces qui vous aideront à vivre pleinement votre rôle dans ce nouveau paradigme pour un monde qui a grandement besoin qu'on évolue dans nos pratiques vers plus de douceur, de lenteur et de respect. Je m'adresse ici aux parents et aux pros de la petite enfance, mais de manière plus globale à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'enfance, aux relations harmonieuses et à l'épanouissement individuel et collectif. Ouh oui, c'est un vaste et ambitieux programme. Avant tout, je me présente, je suis Laetitia Boivin, créatrice de Maman d'Alune, formatrice passionnée en périnatalité et surtout, maman de 4 merveilleux enfants, de 15, 12, 5 et 2 ans. Parmi eux, 3 sont nés à la maison, librement. Ça a clairement impacté ma vision du monde et influé sur la maman et la pro que je suis aujourd'hui. Il y a 15 ans, je faisais partie de ces rares mamans écolos bizarres, avec leur lubie de maternage. Mes enfants ont tous été allaités et portés des années. D'ailleurs, c'est encore en cours pour ma plus jeune. Avec chacun d'entre eux, j'ai vécu l'expérience de l'hygiène naturelle infantile, du tout lavable. J'ai signé pour enrichir notre communication. Nous avons voyagé à travers plusieurs continents. Et depuis toujours, ils grandissent sans école. Des choix que je chéris chaque jour. En bref, j'ai la chance de voir ma vie pro et ma vie perso se nourrir mutuellement. Ici, pas de jugement et pas de culpabilisation. On chemine ensemble. Vous êtes invités à prendre ce qui fait sens pour vous, ce qui vous fait du bien, et à laisser le reste. Mon objectif n'est pas de convaincre, mais vraiment de vous soutenir. Alors préparez-vous à vivre une aventure joyeuse, intense et pleine de découvertes dans le monde de l'accompagnement respectueux et de la parentalité. Eh bien, merci à toi Virginie de venir pour un enregistrement au sujet des émotions. Donc c'est une grande thématique. C'est pas la première fois que tu viens sur le podcast Enfanter et devenir, mais vu qu'il a un peu changé de formule, ça sera différent, puisque tu nous avais conté les récits de naissance de tes enfants.
Petit ajout, il s'agit de l'épisode 18, la concrétisation d'un rêve.
Je crois la saison 2 peut-être, donc il y a déjà 2 ans passés. Mmh. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses une petite présentation déjà, que tu nous dises quelle est la merveilleuse activité que tu fais, les merveilleuses activités que tu fais, si tu veux bien commencer par là, s'il te plaît.
Oui, alors du coup, moi je suis Virginie Maillard, je suis la créatrice de Bougris Bouillon. Je suis illustratrice pédagogique. En fait, je crée des supports, donc surtout avec l'outil de l'illustration pour parler, pour vulgariser des connaissances sur le développement de l'enfant. Et puis, je fais aussi beaucoup d'outils pour les enfants, pour les enfants puis les adultes. Enfin, en tout cas, ils sont aussi utilisés avec les adultes, des tout petits jusqu'aux plus grands, sur tout ce qui est les émotions, l'esprit, le corps aussi, puisqu'il y a des cartes de yoga. Donc, c'est pas vraiment des jeux, c'est vraiment des outils qui permettent de relier les adultes et les enfants, et de mieux se comprendre. Voilà, donc j'ai fait ça depuis. J'ai commencé à la naissance de mon aîné il y a 11 ans, 12 ans presque. Et puis petit à petit, j'ai voulu vraiment communiquer sur ce que j'apprenais sur le développement. Et puis c'est venu aux yeux et aux oreilles, enfin aux yeux surtout, des professionnels qui m'ont contactée parce que je parlais de sujets. Qu'elles abordaient avec les parents, mais elles n'avaient pas forcément les outils pour le faire, pour que ce soit clair. Et puis parfois, les discours peuvent être pris comme jugeants. Et c'est vrai que ces outils-là, enfin, ces images-là, elles servaient beaucoup à communiquer sans forcément qu'il y ait de jugement et pour que ce soit compris assez facilement et simplement. Voilà.
Super, c'est un très beau résumé et moi je ne peux que confirmer tout ça parce que c'est vraiment tes outils qui sont précieux dans ma pratique au quotidien. Et je sais que au tout début, les premières fois que j'ai commencé à intervenir auprès des professionnels, je me souviens très bien, c'était dans un RAM, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. On m'avait demandé si je pouvais proposer un nido Montessori comme je le faisais à la maison. Donc j'avais apporté tout mon petit matériel et puis. Pour moi, vraiment, c'était la philosophie Montessori qui était hyper importante. Donc, la posture, j'avais imaginé que les professionnels seraient forcément OK avec la posture que moi j'imaginais, donc une posture qui est respectueuse, et que moi j'allais juste jouer sur l'environnement, sur l'ambiance matérielle. Et en fait, je suis arrivée, j'ai commencé à disposer des choses et je me suis rendu compte que je ne pourrais pas du tout mener la séance comme je l'avais imaginé. Parce que justement, il y avait un énorme décalage entre la façon de se comporter des professionnels qui, en plus, à ce moment-là, étaient beaucoup des anciennes qui avaient fait ça toute leur vie et du coup qui n'étaient pas du tout dans la même optique d'un accompagnement respectueux que je pouvais l'être. Et là, ça a été très difficile parce qu'il y avait un énorme décalage et je me suis rendu compte que le dialogue, il fallait que je sois sympa vers elle pour ouvrir le dialogue. Et en même temps, c'était difficile parce que j'étais la petite jeune qui arrivait. Et finalement, en termes de légitimité, ce n'était pas toujours évident. Et moi, tes supports, ils ont été mais alors, hyper précieux pour dire, ben, alors voilà, il y a des possibles, il y a d'autres possibles, et on va explorer ensemble, voilà, dans cette situation, comment vous le vivez, comment ça se passe, et essayer de déconstruire un petit peu toutes ces croyances qui nous empêchent d'être vraiment en connexion avec les enfants et leurs besoins profonds, quoi.
Ouais, et c'est vrai que ces supports, ils permettent de voir, en fait, parce que c'est vrai que quand on a un discours, c'est difficile parfois d'imaginer comment c'est possible, et du fait de voir quelques petites scènes comme ça, de voir rien, parce que c'est vrai que les dessins que je fais, ils font transparaître une posture de l'adulte de par des gestes, de par des attitudes de corps. Et ça, c'est difficile à expliquer avec des mots. Et le fait de le voir, en fait, ça permet de le capter, pas forcément consciemment, mais de capter des choses qui ne peuvent pas être captées par le conscient ou par la raison, en fait.
Tout à fait. Oui, c'est quelque chose de plus impactant que seulement des mots. Puis surtout, selon le contexte et la situation, des fois, les mots sont beaucoup plus parlants parce que chacun va pouvoir se les approprier. Enfin, les images sont plus parlantes parce que
Ouais.
chacun va pouvoir se les approprier. Ouais,
Exactement,
en
oui.
effet. Du coup, tu réponds un petit peu à une des questions que je voulais te poser. C'est comment c'est arrivé? Parce que moi, je sens qu'à chaque fois, ça sent le vécu dans tes images.
Ah, tu veux dire toutes les petites scènes que je mets en place sur les. Eh ben. Oui, il y a beaucoup de scènes que j'ai vécues. Je vois notamment, par exemple, la scène sur l'affiche sur l'adultomorphisme, où il y a, en fait, j'ai dessiné même mon fils parce que c'était vraiment une scène où il y a mon fils qui dit. Est-ce que, tiens, tu veux, on lui tend une écuelle ou je sais pas, une petite gamelle, et il dit, mais non, c'est un ramequin, tiens, ton assiette, mais non, c'est un ramequin. Ou va, tu peux débarrasser ton assiette, mais non, c'est un ramequin. Et là, j'avais un ami ce jour-là qui a pas d'enfant et qui s'est pas trop questionné sur ces choses-là, enfin voilà, et qui dit très simplement, avec son regard d'adulte, oui, bah, tu dis ça pour pas le débarrasser. Et puis, bah, moi, je le connaissais très bien, mon fils, et je voyais bien qu'à sa tête, enfin. Bon, il n'est pas calculateur, enfin tout ça. Je sais qu'un enfant ne peut pas l'être, en fait, dans ce contexte-là. Je le connaissais et je sais à quel point les mots pour lui sont importants et la justesse des mots sont importantes. Donc, et j'ai vu, en fait, à ce moment-là, quelqu'un de l'extérieur pouvait lui prêter une intention qu'il n'avait pas eue du tout parce qu'il imaginait que lui, bah, il aurait fait ça s'il n'avait pas eu envie de débarrasser l'assiette. Donc, c'est parti de là, en fait. C'est juste l'envie de traiter ce sujet-là. Et oui, en effet, cette scène-là, je l'avais vécue. Donc, après, certaines fois, je les invente ou je les améliore. Enfin, en tout cas, je les romance, peut-être. Mm-hmm. Mais c'est vrai que souvent, et les idées de thèmes, c'est pour ça que souvent, quand on me demande, mais quel thème ça va être le prochain, des fois, je vais dire, oh, bah, j'aimerais bien traiter ça. Puis, pouf, en fait, il y a un autre sujet qui me tombe devant le nez et je me dis, bah, là, tu as toute mon envie de parler de ce truc. Là et on a envie de partager, d'expliquer les choses que j'ai lues ou de remettre les choses voilà, dans un contexte, ben voilà, du coup ça prend toute la place et c'est ça qui va être avant n'importe quel autre sujet. C'est vrai que si on me faisait des commandes, ce serait vraiment compliqué pour moi, je pense. Mm-hmm. Aller contre ce que je vis au quotidien, c'est le quotidien qui anime de toute façon tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, donc c'est compliqué, ouais.
Ouais, alors moi, de mémoire, il me semble que les premières que tu avais faites, je ne suis pas allée vérifier, donc peut-être que je me trompe, il y avait sur la motricité libre,
oui, sur alors, la DME. Toute première, c'était sur la confiance en toi, dans soi, et dans laquelle on retrouve la motricité libre, d'ailleurs que j'ai traité après à part entière. C'était d'ailleurs le deuxième que j'ai traité, le deuxième sujet, tu as raison. Et le tout premier, c'était la confiance en soi avec ce petit bonhomme qui voulait descendre la marche et quelqu'un qui lui dit « Fais pas ça, tu vas tomber », et le petit qui tombe et qui se fait mal. Mmh. Et avec la version, la petite fille qui prend un verre sur la table et on lui dit pareil « Tu vas le casser, laisse ça », et puis bah, forcément, elle le casse. Mmh. Et avec pour l'autre version, avec un adulte qui accompagne et qui fait confiance, et qui aussi exprime sa peur, parce qu'on a le droit d'exprimer nos peurs sans forcément les coller et les faire porter à son enfant. Voilà. Dans l'idéal, c'est encore mieux de ne pas avoir peur, mais on n'y peut rien. Donc ce moment-là, c'était oui, le moment où mon fils était à quatre pattes et que ma belle-mère était sans arrêt en train de me dire qu'il allait tomber. Mmh. Et que bah, moi, je savais que si elle lui disait ça, il y avait des chances pour qu'il tombe. Je n'avais pas envie qu'il tombe. Je n'avais pas envie non plus qu'elle le prenne par les bras et qu'elle lui montre qu'il ne serait pas capable de le faire, parce qu'à la maison, il était capable et il avait cette confiance en lui, sur le physique, sur ses capacités physiques, et cette conscience de ce qu'il pouvait faire et ce qu'il ne pouvait pas faire. Et on allait souvent chez ma belle-mère, donc je n'avais pas du tout envie que ça casse cette belle chose qui était en train de se créer. Et je me suis dit, bah, il faut que je lui explique, mais moi aussi, avec mes mots, ça faisait juge. Donc j'en ai fait des dessins. Et je savais qu'elle passait sur mon blog de temps en temps, je me suis dit, pourvu qu'elle voit ça.
En effet, ouais, du coup, ce que tu soulèves, c'est vraiment hyper important, le fait qu'on a le droit de tout ressentir, mais pas de faire toutes les actions. Et en effet, on a le droit d'avoir peur en tant que parent, mais c'est pas pour ça que... On se doit de les brimer pour répondre à notre besoin de peur, quoi. Enfin, voilà.
Souvent, enfin, avec cette affiche-là, je me suis confrontée à des gens, on va dire à l'extrémisme de la motricité, pas forcément de la motricité libre, mais vraiment de l'accompagnement de l'enfant qui, bon, il y a des bonnes choses, etc. Mais c'est vrai que quand on rentre un peu dans ce milieu-là, et j'en ai fait partie aussi, c'est très, ça doit être fait comme ça. Si c'est pas fait comme ça, c'est pas forcément
l'extrémisme, oui.
Ouais, c'est ça. Et ben voilà, j'ai forcément, quand on rentre dans une idée, je sais plus, c'est Maria Montessori qui disait ça, c'était que pour faire passer une idée, il faut être extrémiste. Et c'est pour ça qu'elle, j'ai vu ça il y a pas très longtemps, qu'elle disait qu'il fallait surtout pas lire de contes aux enfants, fallait des choses concrètes, mais elle le faisait avec ses petits enfants. Et pourtant, sur toutes les interviews qu'elle donnait, etc., dès qu'elle faisait des formations, je ne sais pas exactement ce qu'elle faisait, mais en tout cas, c'était très radical qu'il ne fallait absolument pas lire de ça. Et pourtant, et ses petits-enfants, un jour, lui ont dit « Mais mamie, pourquoi tu nous as lu ça alors que toi ?» Et c'est là qu'elle a expliqué que pour faire passer une idée, il fallait être extrémiste. Donc voilà, j'arrive à comprendre et je ne m'en veux pas du tout d'être rentrée là-dedans au début, de me dire « Il faut absolument que ça soit fait de cette manière-là. » Parce que ça m'a permis de bien comprendre et d'arriver à faire passer des idées par le dessin. Et puis bah, maintenant, j'en suis ressortie, bien sûr, et je comprends. Et mon extrémisme à moi, c'est l'empathie envers les parents, en fait. C'est de comprendre. C'est-à-dire que c'est vrai que quand je croise des parents qui sont violents avec leurs enfants, que ce soit voilà, en course ou n'importe où, bien sûr que j'ai beaucoup d'empathie pour l'enfant et que je trouve ça anormal et ça me choque pour l'enfant, mais je ne juge plus le parent parce que je ne sais pas, en fait, d'où cette personne vient, je ne sais pas ce qu'elle a vécu, je ne sais pas quel est son état là actuel, je ne sais pas, je ne sais rien en fait, je ne sais rien. Donc je ne peux pas juger, je ne peux pas savoir si elle pourrait ou s'il pourrait faire mieux que ce qu'il est en train de faire. Moi aussi, je me suis déjà vue faire des choses horribles en fait, dont je m'en veux. Si quelqu'un m'avait vue à ce moment-là de pro-bienveillance, etc., il m'aurait jugée comme je peux juger, comme j'ai pu juger en fait. Et voilà, et de l'empathie envers les autres, de la conscience qu'on ne sait pas en fait, on ne sait pas. On peut, oui, constater qu'il y a violence, essayer de venir en aide à l'enfant, mais pas... Et ça m'est déjà arrivé avec une maman qui faisait réviser son enfant, c'était dans des escaliers, voilà, pendant le sport du plus petit. Et ben moi, j'étais là aussi et j'entends ça. Je vais aux toilettes, j'entends qu'elle lui crie dessus et lui, il n'y arrive pas. Et là, je revis ce que j'ai vécu quand ma mère et ma soeur elle n'arrivait pas et ma mère lui criait dessus, la menaçait. Enfin, c'était des moments où je pleurais toute seule dans ma chambre pendant ces moments-là. Et j'étais sortie de mon jugement, etc. Et en sortant, j'ai regardé la mère qui était mise à bout, en fait. Tu voyais qu'elle était vraiment à bout. Et je lui ai dit, c'est difficile, hein. Et là, elle a relâché, elle dit, oh oui, franchement, c'est dur. Il retient à rien. Je fais, oui, c'est vrai qu'il y a un enjeu qui est gros, la réussite, etc. Hein. Et je dis, pour lui non plus, c'est pas facile. Elle me dit, oui, je sais, de toute façon, là, il peut pas y arriver si je fais ça. Et juste... De dire ça, en fait, ça faire descendre la pression. Et pourtant, c'est pas l'enfant que je suis allée sauver, en fait. C'est vraiment elle que je suis allée chercher, dire, je comprends que c'est dur, je comprends que... Et c'est dur aussi pour votre fils. Et là, elle m'a dit qu'elle le savait déjà. Et ça lui a juste permis d'aller voir ça, de développer cette chose-là.
Sans recevoir encore plus de violence, parce que cette situation, du coup, si elle était dans la violence, c'est parce que c'était difficile aussi, j'en suis convaincue.
Et oui, et oui, carrément, quoi. C'était violent pour tout le monde, en fait. Hein. Donc, je pense que c'est ça. Et puis, c'est comme ça qu'on va... L'empathie, enfin, pour venir au sujet du podcast, c'est grâce à cette conscience qu'on a, parce que si j'avais pas conscience de ce qu'elle était en train de vivre à ce moment-là, et ben je la juge forcément plus facilement. Si je la juge, et ben si jamais je veux intervenir, je vais forcément montrer que je la juge. Donc elle, au lieu de se relâcher d'abandonner un peu cette colère qu'il y avait, et ben forcément elle va être sur la défensive et ça peut que créer quelque chose de pire que ce qui est en train de se passer en fait.
Ouais, c'est hyper intéressant du coup de voir le cheminement et ça donne encore plus d'impact à tes outils. En tant qu'éducatrice Montessori, ça me parle l'exemple que tu donnes et en effet c'est de l'anthropomorphisme, le fait de ne pas proposer pour les enfants, en tout cas avant 6 ans voire 8 ans selon les écrits où les hommes sont représentés par des animaux par exemple et de rester vraiment dans le concret et voilà. Une fois que les enfants sont bien à l'aise avec le concret, à ce qui se passe vraiment, aller vers l'abstraction. Et c'est la même chose, en fait, pour tous les apprentissages. Donc oui, ça, c'était la petite parenthèse par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure. Oui, je ne peux qu'aller dans ton sens par rapport au fait qu'en effet, on a beau voir de la violence autour, si on se positionne comme la personne qui sait au détriment de ce que l'autre personne en face vit, sans qu'on puisse vraiment avoir une idée du contexte global. Ça n'empêche pas que les enfants sont dans des situations qui sont difficiles, mais on a besoin, pour moi, j'en suis convaincue, d'aider les parents, d'accompagner les parents, de les soutenir pour qu'eux-mêmes puissent être soutenants et accompagner leur enfant dans le respect, quoi. J'avais une petite anecdote qui me faisait beaucoup penser à ça, que je raconte assez régulièrement parce qu'elle m'avait vraiment hyper touchée. Moi, j'ai été une maman hyper jugeante. Quand j'avais une seule enfant, qu'elle avait 18 mois...
Pareil.
J'étais un peu la maman parfaite à ce moment-là, tu vois, sans vouloir me jeter des fleurs. J'avais jamais crié. Alors, pourtant, elle se réveillait la nuit. Je me mettais dans des états pas possibles, mais j'allais la bercer à 4h, 5h. Enfin, voilà. J'étais réveillée tous les matins hyper tôt. Et elle mangeait que des petits trucs bio, fait maison. Enfin, tu vois, c'était vraiment mon petit paradis. J'étais vraiment la maman que je voulais être à ce moment-là. Et du coup, c'est vrai que j'étais hyper jugeante. Et quand je me suis retrouvée déjà enceinte de mon deuxième avec les hormones, la fatigue, tout ça, c'était plus tout à fait pareil. Et quand je me suis retrouvée maman de deux, avec des enfants qui avaient des besoins différents, et puis avec aussi cette période que moi, j'aime pas appeler le terrible two, mais en tout cas, qui est une période qui est très challengeante aux alentours des 2 et 3 ans, où moi, du coup, j'ai cumulé les deux. C'est-à-dire accueillir un tout petit bébé avec des besoins de calme, de lenteur, de douceur, et avoir une bambine qui se jetait dans tous les sens, partout, tout le temps. Et ben, j'étais plus du tout la maman hyper zen que je voulais être. Et ça m'a vraiment aidée à prendre du recul, à me dire waouh, petite leçon d'humilité, c'est complètement pas ce que j'avais imaginé. Et je me suis retrouvée maman solo à ce moment-là, et clairement, j'ai parfois été le dragon que je redoutais d'être. Et un jour, en emmenant mes enfants à la piscine, on était dans les vestiaires. Donc, on ne voit pas les gens qui sont autour, on les entend seulement. Et il y a une maman qui était en train de violenter clairement sa fille pour qu'elle s'habille plus vite parce qu'elle devait être pressée. Et à ce moment-là, j'ai senti mon petit cœur qui serrait. Mais bon, j'ai rien dit et je me suis vraiment dit, waouh, ça doit être un moment difficile. Sauf que mes enfants à moi, eux, entendaient les mêmes choses. Et ma grande, qui devait avoir à peu près 4 ans à l'époque, était vraiment choquée. Elle me dit, oh, tu te rends compte comment la dame, elle parle à sa maman? Et donc, la dame nous entendait également parce que la capacité de chuchoter à 4 ans, c'était pas hyper acquis. Et du coup, la dame à côté devait entendre. Et je me suis dit que la réponse que j'allais donner, elle était vraiment importante en fait à ce moment-là. Et du coup, j'ai vraiment soufflé un coup et je me suis dit, waouh, tu sais ma chérie, oui, c'est difficile. Alors, ma fille, elle m'avait précisément dit, tu te rends compte comment la dame, elle parle à sa propre fille? Et moi, je m'étais dit, ouais, mais en fait, elle parle comme ça, mais on ne sait pas le reste du temps. Peut-être qu'elle parle très très bien à sa fille tout le temps, puis que ce jour-là, le seul moment où on les entend, en fait, c'est un moment qui est hyper difficile, parce que peut-être qu'elles sont pressées, qu'elles ont passé une mauvaise journée, qu'elles ont eu une mauvaise nouvelle, et que là, c'est important qu'à ce moment-là, sa fille, elle écoute, et c'est difficile, et quand ça ne marche pas, de réussir à trouver la bonne manière de faire. Et j'avais senti vraiment à côté, la dame n'avait rien dit du tout, elles étaient parties, et j'avais senti, je ne sais pas comment expliquer, tu vois, dans l'air, que ça avait été un soulagement, un apaisement de pouvoir offrir cette réponse-là, aussi bien à ma fille, qui m'avait dit après, « Mais toi, tu ne fais jamais ça avec nous !» Et j'étais là, hein, « Mais si, mais tellement !» Et bien sûr, à un moment T, comme tu le disais, sur un moment T, si on ne voit que ça, ouais, mais bien sûr, je peux être dans ce cas de figure-là. Et sincèrement, depuis quand même 15 ans maintenant que je côtoie des familles, que j'accompagne des familles qui sont dans l'optique d'accompagnement respectueux, j'en connais aucune, jamais, mais vraiment aucune, qui ne se soit pas emportée, qui n'ait pas dit des mots, qu'elle ait regretté, qui n'ait pas eu des actions ou ce qui n'était pas terrible, quoi.
Bien sûr, c'est impossible, en fait. Non. On nous fait croire que c'est possible, enfin, on nous fait croire. On se fait croire que c'est possible, on se met des pressions monstrueuses, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on le vit si mal quand ça arrive et qu'il faut un regard extérieur ou de l'empathie extérieure pour dire « c'est pas grave, t'as le droit, en fait. Ben ouais. T'as le droit de pas être parfaite, t'as le droit de craquer et t'as le droit de... Voilà, de temps en temps, en fait, c'est normal. » C'est...
Ben ouais. C'est... Et en effet, moi, je trouve que c'est important d'en parler comme d'un chemin, si tu veux, où tu vises un objectif. Et l'idée, c'est pas que tout soit parfait, tu vois. C'est qu'on est humain, on a tous des difficultés à des moments. Et puis, et en même temps, c'est de garder cette ligne directive-là. Et que quand tu fais un pas de côté, quand il y a un moment où t'as merdé, clairement, et ben, tu saches le reconnaître, que t'aies l'humilité à ce moment-là de dire que c'est toi qui as déconné, c'est pas ton enfant. Et dire, ben voilà, on fait quoi à partir de là, maintenant, avec ce qui s'est passé, pour aller vers retrouver vraiment la direction qu'on s'est fixée, quoi.
Oui, bien sûr. Pour moi, la plus grande violence, c'est de faire croire à l'enfant qu'il le mérite et que c'est normal, en fait.
Ouais, ça fait une grosse différence.
Et quand tu reviens sur quelque chose que tu as fait, en prenant la responsabilité de cette chose-là, parce qu'on peut revenir en disant « oui, mais bon, t'as vu ce que t'as fait ». Non, je parle vraiment en prenant la responsabilité. Oui, l'enfant a vécu quelque chose de difficile et de violent, mais il ne va pas l'intégrer comme quelque chose qu'il mérite et qui est normal, qu'il subit. En fait. Donc, je vois la différence entre quand ça m'arrive et que avant que je vienne, ils ne m'en veulent pas. Ils ne m'en veulent pas parce qu'en fait, pour eux, c'est de leur faute. Tu vois, même si ça arrive rarement, etc., je pense que c'est automatique pour un enfant, en fait, de considérer que la personne qui est en train de violenter, si c'est une personne ressource, et ben c'est qu'il le mérite, sinon on ne le ferait pas, tu vois. Et et que si toi tu viens, et je sens ce relâchement généralement quand je viens jamais juste après parce que moi j'ai besoin de me calmer et que ça soit sincère, en fait, totalement sincère.
Tout à fait.
Et quand je viens du coup après où les choses sont calmes, mais je viens en reparler, et là généralement il y a des pleurs, en fait, des pleurs de leur côté, des fois de mon côté, mais on sent qu'en fait c'est ouf, je relâche, quoi, et enfin l'enfant relâche, quoi, et enfin comprend, et puis c'est là où j'imagine avec ma dernière, c'est une des dernières fois, et c'était vraiment ça au moment où je lui en ai reparlé, c'est elle a osé me dire oui, et t'as fait ça, et t'as dit ça, etc., toutes les choses qu'elle a gardées en elle d'injustice, et tu vois, elle va avoir 4 ans là, donc elle est encore petite, et pourtant elle avait plein de choses à dire qu'elle ne s'était pas permise tant que moi j'étais pas venue lui dire c'est pas normal ce qui s'est passé, en fait. C'est pas ta faute et c'est pas normal ce qui s'est passé. Tu ne devrais pas subir ça, en fait. Donc, c'est un petit peu accordé à l'enfant, quand on vient réparer et s'excuser, c'est accordé à l'enfant la possibilité de refuser ça pour lui, en fait, ou pour elle.
Tout à fait. Et oui, parce qu'en fait, là, on est parti un petit peu... du coup, je trouve que le fil, il est hyper logique, parce que tu t'es présenté et après tu nous as expliqué le comment t'en étais arrivé là, et en fait finalement les outils que tu crées, c'est une belle manière de montrer un chemin qui soit respectueux sans être dans le jugement, et que chacun puisse avancer à son rythme, et en même temps tous les moments où on n'arrive pas à tenir cette ligne de conduite qu'on s'est donnée, c'est tous les moments où nous-mêmes, en fait, en tant qu'adultes, on est submergés par nos émotions. Donc, juste pour reposer un peu le contexte, l'émotion, c'est vraiment le résultat d'une interaction, en gros, entre l'environnement, entre ce qui se passe autour de nous et notre monde intérieur, en fait. Vraiment, et du coup, ça implique vraiment des phénomènes qui sont assez variés, avec parfois des sensations physiques, avec des pensées, et puis... en fonction de la manière dont on est capable d'accueillir ou pas, avec des actions. Et puis des fois, les actions, elles dépassent un petit peu notre bon vouloir, parce que justement, on n'a pas été à même parfois de savoir les nommer, de savoir, on va dire, accueillir l'émotion sans qu'elle soit dévastatrice.
C'est ça. Ça me rappelle ce moment où je me rappelle, j'étais épuisée. Je devais être enceinte, je pense, parce qu'il avait autour de 3 ans, mon aîné. Donc, tu vois, ça devait être pareil au moment où je me rendais compte que que j'arrivais plus à être la maman si parfaite que j'avais envie d'être. j'étais épuisée et je me rappelle qu'il était sur les... plusieurs fois, j'avais vu que j'explosais d'un seul coup et sans comprendre d'où ça venait ni pourquoi, de colère. Et puis j'ai lu quelque chose qui parlait de regarder, enfin qui parlait, c'était un témoignage d'une maman qui, alors ça fait longtemps, c'était sur un blog, il y avait encore des blogs, et elle avait décrit cette sensation et elle disait quand je sens que ça monte, je regarde ses mains. Parce que ses mains, c'est des toutes petites mains, en fait, les mains des enfants. Mmh. Et c'est là où tu te rends compte à quel point ils sont petits et qu'à quel point, en fait, ils n'ont rien demandé et qu'ils ne méritent pas ce qui va se passer. Mmh. Et en fait, ça lui permettait de redescendre tout de suite. Et un jour, je me rappelle, il était sur les toilettes, je le tenais, enfin, à moitié, parce qu'il était encore petit, du coup, et je ne sais plus ce qui se passe. On devait partir. Enfin, bref, j'étais en stress. Et, j'ai senti, j'ai réussi à sentir la colère monter pour une fois. Et là, je me suis focalisée sur ses mains, j'ai repensé à ça, et pouf, ce qui a remplacé en fait la colère, c'était des pleurs, quoi, tu vois. Parce que tellement j'avais un trop-plein de plein de choses que j'avais même pas calculées depuis certainement assez longtemps, et qu'en fait, la colère, elle était juste, c'était juste une boule de toutes les émotions que j'avais enfouies depuis des heures, quoi.
Tout à fait.
Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais il faut absolument faire quelque chose qui montre le niveau, en fait, des émotions. Parce que c'est bien de dire colère, machin, mais on est, quand elles arrivent, c'est trop tard, en fait. Quand elles arrivent à cette intensité-là, quand elles explosent, c'est trop tard, en fait. C'était bien avant qu'il fallait les... Donc c'est avant, quand elles ne sont pas dérangeantes, qu'il faut réussir à les capter. Donc c'est là qu'est né, d'ailleurs, je les ai fait longtemps après, ces outils-là, parce que j'en ai pas eu besoin. Enfin, une fois que je me l'étais dit, je l'avais dans la tête, je n'avais pas besoin d'un outil à moi, mais entre les mains. Mais c'est là qu'est né, en tout cas, ce besoin de faire quelque chose qui montre l'évolution de la colère, que j'ai décliné avec d'autres émotions, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas que la colère qui est importante, et les autres, elles doivent aussi être relevées et écoutées. On a tendance à écouter plus la colère parce qu'elle dérange. Mais la tristesse ou même la joie, quand on voit des enfants sauter partout et tout ça, on dit « Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont chiants, ils sautent partout !» Mais en fait, ils savent pas qu'ils sont en train d'être hyper joyeux. Quoi. Et c'est aussi, c'est important à reconnaître quoi, les émotions. Je ne vais pas dire positives parce qu'elles le sont toutes, vu qu'elles nous aident toutes.
Exactement. Mais
elles sont plus agréables, on va dire.
Elles sont toutes nos alliées, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas eu cette vision-là. Moi, je me souviens, j'étais... en formation BAFA, donc j'avais 17 ans à ce moment-là, et dans la crèche où j'étais en stage, il y avait un petit garçon qui voyait arriver tous les matins, une demi-heure après lui, des amis de ses parents qui déposaient leur petit bébé qu'il voyait lui dans le quotidien, donc à chaque fois il sautait partout, il était tellement content de la retrouver. Moi je trouvais ça hyper émouvant, et à chaque fois on lui disait... Je ne vais pas citer son nom, mais du coup, à chaque fois, on lui disait « Tu te calmes !» Et je me disais « Mais mince, en fait, il est juste heureux, il est juste tellement content !» Et moi, je trouvais ça tellement beau. Et en fait, oui, c'est vrai qu'il était très démonstratif. Et forcément, ben, peut-être que par imitation, les autres enfants étaient excités aussi. Et que du coup, ça apportait quelque chose qu'en tant qu'adulte, pour les adultes, c'était gênant. C'était dérangeant parce que, en fait, ça nuisait à leurs propres besoins de calme et puis d'ordre, quoi. Et ça, démêler tout ça, c'est pas toujours évident. Hein.
C'est ça, c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui est très sensible au bruit, à l'ambiance émotionnelle et tout ça. Donc, voilà, ça fait pas bon ménage avec des enfants en fait.
On est d'accord.
mais par contre, j'ai appris petit à petit, au fil des enfants, à le reconnaître, à le verbaliser, et donc du coup à ajuster l'environnement, c'est-à-dire que oui, quand tu vois là par exemple quand ils sont contents et tout ça, qu'ils commencent à sauter partout, à crier, à se courir après, à faire tomber des chaises ou des trucs, moi c'est trop mm-hmm. pour moi. Alors mon réflexe, c'est-à-dire ce que j'ai vécu quand j'étais enfant, ce serait de leur hurler dessus. sauf que du coup, j'ai appris à faire autrement. Bien sûr qu'il est là, le réflexe, et je l'empêche en fait. Il est là, hein, il est en moi de toute façon, il ne pourra jamais me quitter. Mais ça m'aide en fait d'avoir, on va dire, développé la conscience des émotions. Et d'avoir vraiment développé la conscience autant chez moi que chez les autres. Parce que forcément, quand tu le développes, je parlerai après de quelque chose, mais quand tu développes pour les autres ou pour toi, enfin voilà, ça fait pour tout le monde pareil. Et donc, du coup, bah, dans ces moments-là, j'arrive à reconnaître, OK, donc là, ça me saoule. Dans ma tête, ça se passe comme ça. Là, ça me saoule. Pourquoi ils sont comme ça? Ah bah, ils sont comme ça parce qu'ils sont contents. Donc, bah, on va en parler. Je crois que vous êtes vraiment content qu'un tel arrive. C'est ça, vous êtes content? Oui! Ok, bah, on fait un truc plutôt. Soit vous allez dehors, vous allez vous dépenser. Soit on en parle, soit on saute, soit on met de la musique. Mais on fait quelque chose qui va aller. On va dire qui va canaliser ça. Je ne leur dis pas comme ça, mais voilà, je propose des choses plutôt qui vont essayer de canaliser ou qui vont pouvoir l'extérioriser. Mais la plupart du temps, simplement le fait de nommer l'émotion, et ça c'est valable pour toutes les émotions, le fait de nommer l'émotion, et ben ça fait redescendre le côté explosif de l'émotion. Ça éteint pas l'émotion, bien sûr que non, parce qu'en plus elle est nécessaire, et voilà, surtout de la joie, tu dis bah il faut la vivre à fond, mais le côté dérangeant en fait, le côté explosif, là ça permet de faire redescendre, juste d'avoir conscience de ça. Donc juste de dire vous êtes content qu'il arrive, ou vous avez hâte, ou vous êtes content qu'on fasse ça, bah ah oui, et puis pouf, après ça redescend et le niveau est plus acceptable, en tout cas pour moi quoi. Quand je propose les outils, ou quand il y a des gens, enfin quand on me demande un petit peu comment utiliser les outils, je pense aux cartes des émotions, je me rends compte, et je m'en suis rendu compte pour moi et aussi, que en fait le fait d'utiliser avec l'enfant, d'ailleurs j'en parle, il y a un petit dépliant qui accompagne les échelles, les éventails et la roue des émotions, qui explique qu'en fait En éveillant son enfant au vocabulaire et à la conscience des émotions, on s'éveille soi-même à ça, en fait. Parce que, et c'est ce qui s'est passé pour moi, parce que la raison pour laquelle je me suis éveillée aux émotions, c'est parce que j'ai voulu le faire pour mes enfants. Mmh. Et donc, du coup, bah, petit à petit, j'ai pris conscience de ce que je vivais moi-même, puisqu'en fait, on développe l'intelligence émotionnelle, donc elle est valable pour tout le monde, l'intelligence émotionnelle, que ce soit pour toi ou pour les autres. Si tu arrives à mieux comprendre ce qui se passe émotionnellement, bah, tu arrives à comprendre pour les autres ou pour toi, c'est pareil, quoi.
Ouais. J'ai plein de fois aussi vécu vraiment la situation à partir du moment où on reconnaissait, à partir du moment où on verbalisait l'émotion, ça changeait beaucoup de choses. Moi, je sais qu'il y a un des outils qui m'a énormément porté pour ça, c'est l'accompagnement avec des signes. Moi, j'ai signé avec chacun de mes enfants et ça a été vraiment très facilitant. Pour moi, c'était vraiment, ça fait partie des outils, si tu veux, qui m'ont permis d'être respectueuse. Parce qu'il y a plein de choses en fait où moi je pouvais imaginer des choses, mais tant qu'ils n'avaient pas la parole pour le dire, c'était seulement des hypothèses. Et vu que les signes, la majorité du temps, viennent bien avant les mots, ça permettait de grappiller des précieux mois pour justement dire ok, en fait, ah mais là, waouh, tu pleures, mais en fait juste t'as peur, ah mais j'avais pas compris que c'était ça, moi j'avais l'impression que c'était un moment qui était ok pour toi, et en fait, t'as dû avoir très peur en effet, et là je sentais que directement ça mettait une connexion en fait, de pouvoir se comprendre comme ça, ça permet vraiment d'entrer en relation avec la personne, en fait avec les enfants, mais comme tu le dis, avec les adultes ça marche de la même manière aussi de toute
Exactement,
façon.
Exactement, oui. Et tu vois, je pense à ça, c'est qu'il va y avoir plusieurs profils d'enfants. Moi, j'en ai trois, et trois profils totalement différents. Mmh. En plus, c'est vrai que le désamorçage par nommer l'émotion, il conviendra forcément à un moment donné, mais pas forcément au même moment pour les enfants. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, ça va être l'horreur. Si tu leur parles d'émotion au moment où ils vivent l'émotion, alors ils vont t'envoyer bouler direct, quoi. Et il y en a d'autres, ça va être ça, le déclencheur d'accepter ce qui se passe ou même de la vivre. Parce que moi, j'ai un aîné, ça a été ça. Hein, c'est-à-dire qu'il est très peu verbal et il va avoir 12 ans et il parle encore très peu. Il parle très bien, mais c'est pas sa communication privilégiée, enfin, préférée, on va dire, les mots. Donc, on a signé avec lui aussi, et heureusement, je me dis heureusement que j'ai utilisé cet outil-là. C'était mon premier, donc j'aurais pu, tu vois, passer à côté avec tous les trucs. Qu'on peut mettre en place et toutes ces nouveautés. Mais en tout cas, on l'a fait, et heureusement, parce que ça nous a permis justement de pouvoir communiquer avec lui. En tout cas, on le comprenait bien sans ça, puisque de toute façon, il s'exprimait avec le corps, avec ou sans signe. Mais ça lui a vraiment permis, pareil, on nommait les émotions, de comprendre ce qui se passait en lui, de nous expliquer ce qui se passait en lui et de le vivre, parce qu'en fait, il était tellement... Il intériorisait beaucoup, il intéressait beaucoup des choses. Et ça pouvait, et comme je t'expliquais avant l'enregistrement, ça pouvait vraiment passer inaperçu à partir du moment où il avait un câlin. La moindre petite contrariété, avant même de la comprendre, on faisait un câlin et c'était fini. Donc en fait, du coup, on ne comprenait jamais ce qu'il vivait, et lui non plus, on ne comprenait jamais ce qu'il vivait. Et c'est vrai que les signes, ça a permis de rajouter une dimension de communication et de conscience de ce qu'il vivait. Et c'est vrai que c'est très très important pour les enfants, pour tous les enfants, avant de verbaliser, et d'autant plus les enfants qui verbalisent un peu plus tard, parce que sinon on il y a des choses qui peuvent... Après, pour les enfants qui extériorisent beaucoup, on va forcément trouver des solutions, on va parler, mais c'est vrai que ça peut... c'est un outil vraiment très important, les signes. Ouais.
Oui, complètement. Moi, je sais que... Et je le vois parce que depuis, j'accompagne les familles dans la mise en place et les structures, elles se rendent bien compte que les frustrations diminuent grandement des deux côtés et que du coup, les relations sont beaucoup plus apaisées. En effet, moi, il y a un petit exemple. Enfin, c'est pas un petit exemple, c'est une image qui me parle beaucoup. C'est l'histoire de l'émotion qui vient à taper à la porte du cerveau, toc toc toc, et en fait le cerveau, il est bloqué, il veut pas l'entendre, il a autre chose à faire de plus important, mais en fait elle va taper de plus en plus fort, et puis si vraiment il veut pas ouvrir la porte, elle va défoncer la porte, mais elle rentrera de toute façon. Et c'est vraiment ça, se dire, ok, en fait, bah, non, je suis obligée d'ouvrir. Et des fois, tu as toujours mieux à faire, mais c'est comme une voiture qui tombe en panne. Tu as toujours mieux à faire que gérer une voiture en panne. Ouais. Là, tu as toujours mieux à faire que gérer l'émotion que tu commences à sentir. Sauf qu'en fait, si tu ne le fais pas, enfin, pas gérer l'émotion, mais en tout cas accueillir.
Ouais.
Sauf que si tu ne le fais pas, eh ben, elle va venir prendre toute la place, jusqu'à ce qu'elle soit débordante. Et c'est ça qu'on n'a pas appris à repérer, en fait. Quand on n'a pas réussi à repérer le petit toc-toc-toc, tout discret, tout sympathique, eh ben, en fait, on a juste l'habitude, quand elle enfonce la porte, et là, c'est là qu'on dit, bah, je ne comprends pas, je ne la vois pas arriver, je fais le volcan. Ben, en fait, oui, je fais le volcan, mais si vraiment je suis à l'écoute, mais ça prend du temps, et ce n'est pas évident, on ne peut pas se décider de dire, bah, non, mais moi, j'ai envie maintenant de m'y connecter. Ben non, en fait, c'est un apprentissage qui passe par l'expérience et du coup, bah, ça demande du temps. Et ouais.
Ouais. Je pense au fait, tu disais d'accueillir l'émotion, donc tu parlais d'une frustration. Et ça me fait penser aussi à... Bah, forcément, on a envie d'aider nos enfants, on a envie que ce soit un point difficile pour elles ou pour eux le plus possible. Et parfois, on peut avoir tendance à vouloir éteindre l'émotion par accepter la chose, par exemple l'objet de la frustration, ou remplacer quelque chose, ou vite détourner en donnant autre chose. Et alors moi, je suis plutôt partisane de vivre l'émotion à fond, en fait, et de montrer à l'enfant que c'est pas un ennemi. Je parle de ça parce que j'ai eu l'occasion il n'y a pas très longtemps, donc voilà, c'était pas quelque chose de très important, mais j'ai ma fille donc voilà, qui a 4 ans, donc je donne l'âge pour situer un petit peu, on va dire, la capacité à différer un besoin ou ces choses-là. Elle est encore petite et donc elle vit une frustration, et son père, qui aime pas trop les émotions, vient et dit, oh mais si tu veux on peut, et je l'arrête, je lui dis, attends, elle est frustrée, il n'y a pas besoin de remplacer, en fait, il y a juste besoin d'écouter là. Alors je lui dis, t'es frustrée, oui, parce que, donc elle me balance tous les trucs comme ça, et puis pouf, une fois qu'elle avait balancé son truc, bah, elle n'a rien demandé, elle ne voulait pas qu'on remplace, qu'on fasse à la place, qu'on fasse autre chose, en fait elle avait juste besoin qu'on écoute, et de se sentir comprise, reconnue dans ce qu'elle vivait, et elle n'avait rien besoin de plus. Et donc là, son papa, bon bah, il a rien dit, il est reparti en s'empêchant du coup de proposer ce qu'il voulait proposer, pour éteindre vite le truc, pour montrer qu'on pouvait remplacer, pour montrer qu'on pouvait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas facile, parce que bah, on a tendance à vouloir faire ça pour son bien, ou de faire bien, en fait, de faire ça pour faire plaisir. Mais en fin de compte, on ne leur apprend pas à ce moment-là à accepter les émotions comme des alliés, et aussi à les verbaliser, c'est-à-dire, je suis frustrée, je ne vais pas forcément arrêter. Mon but, ce n'est pas d'arrêter ma frustration ou d'arrêter une tristesse, ou c'est de la vivre, en fait, parce qu'elle a un rôle à jouer. La frustration, elle va être là pour accepter quelque chose, ou la tristesse aussi. La colère, elle va être là pour définir ses besoins et quelque chose et ses limites, tu vois. Et en fait, toutes les émotions, elles sont nécessaires pour ses besoins, pour son soi intérieur, pour la conscience de soi, pour le respect et l'estime qu'on a de nous-mêmes, quoi.
Tout à fait.
Donc ça, c'est vraiment apprendre, pour moi, à... C'est important de ne pas remplacer, pour moi, le moment de l'émotion par une autre plus joyeuse ou plus agréable, en fait. C'est vraiment d'accompagner, même si c'est difficile sur le moment, de l'accompagner jusqu'au bout pour qu'elle fasse, qu'elle finisse son processus pour lequel elle est là, en fait. Quoi. Elle n'est pas là pour l'émotion.
Tout à fait. Mais moi, ça me fait un petit peu penser à tout à l'heure quand tu disais la partie un petit peu police de l'accompagnement respectueux, en mode radar dès qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose qu'il ne faudrait pas, ou la pression qu'on peut se mettre tout seul en tant que parent quand on veut que tout soit parfait, de réagir de tout temps de la bonne manière. En fait, je pense que des fois, il y a une mécompréhension un petit peu de pourquoi on fait les choses, et ben voilà, on oublie parfois aussi que finalement les enfants vont agir, ben, beaucoup par imitation, par imprégnation, et que du coup, ben, les fois on est super dur avec nous-mêmes, ben, en fait c'est ça qu'ils vont voir. Donc on va être super dur avec nous-mêmes parce qu'on a mal réagi, et le grand risque, et moi c'est quelque chose que j'observe souvent, les parents qui ont mal réagi, ben, ils font quoi, ben, en fait leur enfant il est pas bien en face. il n'est pas bien parce que l'enfant, l'adulte a eu un comportement qui était inadapté, mais du coup, l'adulte se sent tellement responsable de ça qu'il va faire quoi ? Ben, en fait, il va offrir autre chose à l'enfant qui n'a rien à voir. Donc l'enfant, il peut être triste, il peut être en colère. Et ben, le parent, à côté de ça, il va lui offrir, je ne sais pas, un dessin animé, un bonbon, donc il va le blinder de sucre. Ou... Et du coup, en fait, ça ne va pas du tout aider la situation. Donc sur le moment T, oui, on a l'impression qu'en effet, les choses vont s'apaiser, sauf que ben, ça va créer un... une relation qui est malsaine à l'émotion, on va se dire, bah, en fait, oui, quand je ressens cette émotion-là, ce qu'il faut que je fasse, bah, c'est que je me tourne vers telle chose ou telle chose, alors que ce n'est pas du tout l'idée. Et en effet, ça va nuire un petit peu au processus. L'émotion, en fait, elle est là pour nous guider. Et je pense que c'est important de ne pas l'éteindre, notamment parce qu'elle va nous donner une direction. La peur, ça va être une direction d'un pas en arrière. L'envie, tout ce qui va nous porter comme ça. La colère, ça va aussi être une chose qui est importante pour se protéger. Et en fait, c'est vrai que si on essaye d'étouffer tout ça, on n'aura pas la chance de se servir de nos émotions comme des guides. Alors que ça, je pense que c'est hyper précieux, finalement.
Ouais, et tu vois, cet exemple-là, que tu disais avec un parent qui peut donner quelque chose, moi, je vois vraiment la scène, on va dire, globale, et je pense aux parents qui, j'ai l'impression que faire ça, ça montre un côté très mal à l'aise avec les émotions, ou de peur, ou de quelque chose, en tout cas, qui est désagréable vis-à-vis de l'émotion exprimée. Et c'est pour ça que moi je trouve ça vraiment très important que l'éveil des émotions de l'enfant, elle se fasse aussi avec les adultes qui l'entourent, en fait, parce que c'est justement l'adulte qui va guider l'enfant vers comment on accueille une émotion, et que les réactions qu'on a, en fait, automatiques, vu qu'on n'a pas été éveillé à ça, c'est-à-dire que on va perpétuer exactement ce qu'on a vécu quand on était enfant. L'émotion, on la tait, soit elle dérange, soit elle est malvenue pour diverses raisons. Et le fait d'éveiller l'adulte aux émotions va permettre d'éviter ces comportements de détournement d'essayer de cacher, d'enterrer l'émotion qui est en face. Mais c'est vraiment quelque chose de difficile. Alors, moi, c'est vrai que j'ai... on va dire, je suis très très sensible, donc c'est quelque chose qui a toujours été très présent et très important dans ma vie, les émotions. Elles n'ont pas été du tout comprises, elles ont été jugées par les personnes qui s'occupaient de moi quand j'étais petite. Mais vu qu'elles ont été tellement présentes, c'est que au fur et à mesure, je me suis pas remise en question moi, et c'est les autres que j'ai mis en question en disant qu'ils étaient méchants, tu vois. Mais c'est-à-dire que moi, je les vivais tellement intensément que je savais que je pouvais rien y faire, en fait. Mais du coup... Donc, d'une part, ça a fait que je me suis sentie rejetée, etc., pour qui j'étais, parce que pour moi, j'étais comme ça. Mais d'un autre côté, ça m'a permis toujours de garder une connexion avec ça. Et du coup, quand j'ai essayé d'y retourner, de m'éveiller de nouveau aux émotions, elles ne me font pas peur, parce qu'en fait, elles sont tellement importantes pour moi que les émotions des autres sont forcément moins effrayantes que les miennes. Donc pour moi, ça a été quelque chose d'assez facile, en fait, d'accéder à ça. Mais je vois, par exemple, mon conjoint qui, lui, est très antérieur et a une capacité d'introspection très faible, parce que c'est dur, c'est vraiment dur pour lui. D'avoir accès à ça, c'est une torture pour lui. C'est réveiller des dragons, en fait, pour lui. C'est vraiment, parce que accepter les émotions des autres, c'est d'abord accepter ses propres émotions. Et si on n'est pas capable d'accepter ses propres émotions, ça peut vraiment... ça bloque tout, et ça peut vraiment être quelque chose qui peut nous ravager, en fait, parce qu'on se fait peur, en fait, tu vois. C'est réveiller un monstre en nous, pour certaines personnes ça peut être ça, réveiller les émotions en soi, écouter les émotions en soi, c'est accepter qu'elles existent et donc pas les enterrer, et accepter qu'elles existent, ça peut faire vraiment très peur, quoi. Encore une fois, on n'a pas tous les mêmes bagages, on n'a pas tous les mêmes façons de vivre les choses.
Et puis, à un autre, dans la même journée, ça peut être différent. D'un cycle à l'autre, ça peut être différent. Et bien sûr, selon ce qu'on traverse, c'est très variable, quoi, tout à fait.
Moi, par exemple, avant mes règles, je préviens. J'ai un SPM très fort, alors du fait de sûrement plein de choses, et je pense que la sensibilité... y est pour quelque chose, mais maintenant, j'ai assez conscience maintenant de ça, et je sais que, voilà, mes enfants sont prévenus, bon, quand, généralement, je les préviens pas, bon, bah là, je suis en SPM, mais voilà, quand je vois que je commence à hausser le ton pour un oui ou pour un non, à être agacée pour un oui ou pour un non, en fait, je me rends compte quand tout le monde m'agace, si tout le monde m'agace, ça vient pas des autres, en fait, tu vois.
Ouais. Nous, pendant longtemps, là, c'est vrai qu'on le fait plus ces derniers temps, mais pendant longtemps, moi, j'avais un affichage où je mitais dans quelle période de mon cycle j'étais. Les enfants savaient que c'était pas la même manière de m'aborder selon. Ouais.
Oui, et c'était efficace. Et autant des autres, mais aussi en fait, de, si moi je commence à m'énerver pour un truc,
faut savoir qu'à ce moment-là, t'as une autre raison.
Généralement, ils s'en foutent quand c'est dans cette période-là, tu vois. C'est ouais, bah, je sais, elle va pas bien, voilà, ça, c'est difficile pour toi. Ils ont même plutôt plus d'empathie. Tu vois, dans ces moments-là, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme leur permettre de faire glisser plus facilement des choses qui pourraient les atteindre à d'autres moments. Mais là, voilà, il y a une raison. Bon, bah, ça n'empêche que je reviens toujours dessus. Mais c'est, voilà, quand je reviens dessus, généralement, c'est oui, mais on sait, t'inquiète pas. Tu
ouais,
vois, c'est...
Ouais. Ouais, moi, je trouve ça intéressant aussi de mettre ça en avant, parce que mine de rien, ça concerne quand même une personne sur deux. Et du coup, je trouve que c'est intéressant. Et j'avais envie de revenir au fait que oui, en effet, ben, en gros, quand on a un besoin, l'émotion, elle vient révéler un besoin et elle va nous pousser à agir, donc à adopter une action hein, qui soit judicieuse, une stratégie, ouais, c'est ça, tout à fait, une stratégie pour être bien. Et c'est vrai que ben ouais, ça prend des chemins qui ne sont pas toujours évidents. Et ça remet un petit peu ce que tu disais à un moment un peu plus tôt par rapport au fait que trouver l'équilibre, ce n'est pas toujours facile. Parce que moi aussi, je fais partie des personnes qui ont besoin de calme. Et tu penses bien qu'avec 4 enfants à la maison, et ben non, en fait, je ne peux pas faire taire mes enfants parce que moi, j'ai besoin de calme. Et du coup, ben, la stratégie qui nous convient, en effet, ben, ça peut être de sortir plus souvent dehors. Ça fonctionne bien. Et moi, j'ai des bouchons d'oreilles régulièrement, en fait. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas osé faire avec ma première. Pourtant, j'ai toujours eu cette sensibilité au bruit. C'était un bébé qui pleurait beaucoup. Et en fait, très vite après, j'ai capté que leur petit casque pour les emmener au concert, en fait, bah, c'était super bien pour moi. Et apaiser mon bébé et avoir un casque sur les oreilles, eh ben, c'était pas juste ne pas l'écouter à ce moment-là. Elle avait besoin de contact physique et d'être contre moi. Mais moi, j'avais besoin, pour l'accompagner de manière vraiment respectueuse, bah, que ça ne me fasse pas monter dans les tours. Et du coup, me préserver, eh ben, ça change tout. Et vraiment... je me rends compte.
D'autant qu'avec le casque, on les entend, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai fait aussi ça avec ma troisième et avec mon deuxième, qui pleurait beaucoup, le deuxième. Et j'ai vu la différence, c'est-à-dire que d'un seul coup, j'avais accès à mon empathie. Alors qu'avant, non. Alors avant, j'avais juste accès à de la colère. Enfin, il y avait juste de la colère qui était là. Alors qu'à partir du moment où je mettais le casque, je l'entendais, je le voyais. Et c'est là où j'arrivais à le voir, à voir sa détresse, à voir ses besoins. Et à pouvoir lui apporter quelque chose. Avant, j'étais incapable parce que justement, il y avait une alarme en fait en moi, c'est-à-dire le besoin là, il est trop important, il doit passer avant tout. Ouais. Et le problème, c'est que j'avais un tout petit dans les bras qui avait aussi des besoins qui devaient passer avant tout.
Ouais, non, c'est délicat comme période.
Changer.
C'est ce moment où tu sais que de toute façon, les enfants tout petits, oui, bien sûr, leurs besoins sont prioritaires parce qu'ils sont 100% dépendants de nous pour ça. Et en même temps, bah, des fois, ouais, dans la soupape, si on veut être une personne qui accompagne comme on le souhaiterait de manière le plus respectueuse et empathique possible, et ben, en effet, il a besoin du fameux masque, tu sais, cette image du masque à oxygène devant son nez. Et puis, ça peut prendre différentes formes et ça, c'en est une, par exemple, quoi. Et du coup, là, ben, on n'a pas tout le temps les mêmes besoins en tant que parents. Il y a des parents qui peuvent être avec leurs enfants non-stop et il y en a d'autres pour qui c'est important de s'échapper un peu de ce quotidien-là pour aller voir autre chose, pour parler avec d'autres adultes. Et en fait, on n'a pas à juger de ça. Il y a eu tout un courant un peu dans la partie extrémiste aussi qui était hyper jugeant envers c'est quoi une maman maternante aujourd'hui, est-ce que c'est la maman qui va prendre son congé parental à fond, rester avec son bébé, le porter, pas le faire dormir dans un lit, enfin voilà, toutes ces choses là en fait non, je pense que chaque personne peut savoir ce qui est juste pour elle et pour sa famille finalement. Et on est complètement légitime, peu importe, c'est pas des cases à cocher, quoi. Et dans l'accompagnement des émotions, c'est pareil, c'est une direction, mais c'est pas une liste de cases à cocher, quoi. Heureusement qu'on n'est pas des cases à cocher, d'ailleurs.
Ouais, ouais. Mais il y a beaucoup de mères qui se mettent la pression et c'est hyper violent en fait pour elles parce que parce qu'en fait elles veulent arriver à cet idéal sans du coup sans forcément que ça soit aligné avec leurs besoins à elles. Et c'est là tout l'enjeu en fait de comprendre ses émotions et donc aussi ses besoins derrière. C'est vraiment d'arriver à s'aligner avec ses valeurs, avec ses besoins et de faire ses choix après en conscience de tout ça, quoi. Après, on ne peut jamais être 100% avec nos choix, on ne peut jamais être à 100% dans ce qu'on voudrait, bien sûr, quoi. Mais une fois qu'on les a fait en conscience, je pense que c'est plus facile d'accepter qu'on ne soit pas à 100% aligné avec ses valeurs que quand on les fait par dépit ou parce que ou sans forcément avoir conscience de tout ce qui englobe voilà ces choix là quoi.
Carrément. Je pense qu'on va arriver sur la fin. J'avais une autre petite question. Est-ce que tu avais des sources qui t'ont un peu accompagnée dans ta vie de jeune maman au départ? Moi, je pense à ça parce que tes petits dessins, ils me faisaient pas penser, mais en tout cas, il y avait des choses que je trouvais dans le même esprit que ce que j'avais pu vivre quand j'avais fait ma toute première formation Faber et Maslisch. Avec pareil, c'est des petites scénettes, et en tant que parent, on doit se mettre à la place pour essayer des situations. Et du coup, je trouve que moi, je l'ai fait plusieurs fois, notamment en co-animation avec un groupe de parents. Et j'ai trouvé que c'était hyper formateur, mais du coup, c'est long, c'est tout un processus. Faut vraiment être engagé pour suivre le cursus tout entier, alors que là, on peut piocher seulement tes idées, et je trouve ça...
Ouais. Alors, Faber et Maslisch, je les ai découverts assez tard, je crois, avec mon deuxième enfant. Je trouvais ça génial, mais du coup, il y avait cette formation à Dijon, là où on était, et je les avais contactés, et elle m'avait dit, mais... on connaît ton travail, on va rien t'apporter. Parce que moi, je l'ai contacté pour faire la formation sur les enfants, enfin sur les frères et sœurs et tu vois, non comparaison, etc. D'ailleurs, un sujet que je veux aborder dans mes affiches. Et normalement, le cursus normal, c'était déjà de faire la première formation pour ensuite accéder à celle-là, parce que sinon, bah, y avait des choses qui manquaient. Et elle m'avait dit, ben non, tu peux passer directement là parce que toi, on connaît ton travail, on te connaît et on sait très bien que tu risques de t'ennuyer. Et du coup, c'est mon conjoint qui l'avait fait à ma place. Et oui, en effet, ce qui était ressorti, c'était... du coup, j'avais eu les petites fiches, les trucs comme ça. Et oui, ça ressemblait beaucoup aux scénettes que j'avais fait, mais sans les connaître. Par contre, je pense que ce qui m'a inspirée, en tout cas au début, de visualiser plus les choses, c'était le livre de Filiosa... le fameux J'ai tout essayé.
Oui, tout à fait.
Voilà. Alors, celui-là, il m'a vraiment percuté sur son côté pratique, en fait. C'est-à-dire que moi, j'avais lu pas mal de choses. J'avais lu Pour une enfance heureuse, je crois, de Catherine Guéguen. Ouais. C'est ça. Pour une enfance heureuse qui m'avait. Oh là là, j'avais pleuré, mais. Il est génial ce livre. Et puis aussi ce grand livre qui traite beaucoup de sujets, Comment élever un enfant autrement. Et ça, c'est de Catherine
Dumonté et Crémer.
Oui, voilà.
Tout à fait.
C'est celui-là, je l'avais découvert pendant ma grossesse et il a été ma Bible pendant des mois, quoi. Où je repiochais à chaque fois et je redécouvrais encore des choses au fur et à mesure de l'âge de mon enfant, tu vois. Des choses qui ne m'avaient pas trop parlé, genre la diversification, des trucs comme ça. Et puis là, au moment de la diversification, je rouvrais le livre et je retombais sur la DME ou des trucs comme ça qui me parlaient tellement. Enfin, ça, c'était un fil conducteur, ça continuait la chose que j'avais commencé. Voilà, donc c'est ces livres-là qui m'ont vraiment, qui ont bercé en fait ma maternité. Ces deux, trois livres-là. Et puis un autre aussi qui parlait, alors comment il s'appelait celui-là? Vivre sans couche, ça s'appelait, je crois. Je l'avais acheté juste parce que j'avais entendu parler, dans ces livres-là, on parlait d'HNI et trucs comme ça. Et j'avais vraiment envie d'approfondir ça.
Je crois que c'est Ingrid Bauer, ouais.
Beaucoup plus de maternité que d'hygiène naturelle. Il était génial ce livre parce que vraiment il montrait l'exemple d'une relation bébé-maman, parce que je crois que le père n'était pas vraiment là dans l'histoire, que j'avais jamais vu en fait. Jamais j'avais vu cet exemple de comment on peut être avec son enfant. Et juste, il n'y avait pas d'injonction ni de trucs comme ça, mais c'était juste une normalité dans le bouquin et qui m'a permis de me dire, mais oui, en fait, ça, je peux écouter ça, c'est aussi normal, en fait. Ça, ça peut aussi être une normalité de vivre avec mon enfant de manière plus... Tu vois, je n'avais pas encore ces mots de maternité proximale ou de choses comme ça, de maternage proximal. Mais par contre, c'est vraiment ce qui ressortait du livre et c'est ce qui m'a parlé sans vraiment que ce soit conscient. Mais en tout cas, c'était comme ça que je voyais les choses plus douces, en fait, pour la maternité. Et pour moi et pour mon enfant, parce que j'avais arrêté mon travail, enfin mon travail salarié, avant même de tout ça, parce que je ne voyais pas comment je pouvais et bien faire ça et mon travail. Et mon travail, j'en avais un peu rien à faire. Donc, entre les deux, voilà, j'ai pas eu à choisir. J'en ai dégagé un, quoi, qui ne m'intéressait plus du tout. Et puis, bah, je pouvais. Enfin, voilà, c'était un petit boulot à mi-temps. J'avais encore mon mi-temps en auto-entrepreneur. Donc, je savais que ça n'enlevait qu'une partie de mes revenus. Et puis, vu que mon enfant, je ne comptais pas au début le faire garder. Enfin, je n'avais pas pensé à le faire garder ni rien. Donc, je ne voyais pas trop l'intérêt d'aller travailler là-bas pour payer une garde d'enfant, en fait. Donc voilà les livres qui m'ont bercé au début. Alors après, il y en a eu plein.
Ouais, ouais. Mais, j'imagine.
Les basiques, du coup, je l'ai pas lu complètement, mais je l'ai feuilleté. Je l'ai eu après et je l'ai feuilleté c'était agréable à lire parce que très pertinent. Et un qui m'a beaucoup aidée, notamment sur les émotions, que j'ai lu, enfin j'ai écouté celui-là, parce que c'était un livre audio, mais il existe en livre, c'est « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs »
oui.
de Marshall Rosenberg. Merci. Oui. c'est ce livre-là, je dirais, qui m'a donné accès à l'empathie pour les autres et à arrêter de juger.
Oui, tout à fait.
Parce que en fait, tu te rends compte que tous les besoins sont les mêmes, peu importe la pire crevure du monde, elle a les mêmes besoins.
Eh ben, écoute,
toi,
moi, je vais t'expliquer ce qui m'est passé quand j'ai lu ce livre. Alors, je l'ai lu une première fois quand ma fille, ma grande, devait avoir un an et demi. Ça a été une grosse révélation. Et je l'ai relu il y a 9 ans. Je venais d'emménager dans cette maison-là, qui est une grosse maison en campagne, pas isolée, mais enfin voilà, je sais plus pourquoi. Et en fait, je ne fermais jamais la porte à clé. Et régulièrement, j'avais des voisins qui me disaient « Mais faut penser à fermer vos fenêtres, vos portes, c'est important, parce que ben, y a des cambriolages quand même et tout. » Et à un moment, je me suis retrouvée dans mon lit, j'étais partie me coucher, il était tard, mes enfants étaient couchés, enfin j'étais maman solo à cette époque-là, donc j'étais toute seule dans la maison avec mes enfants, et je n'avais pas fermé la porte. Enfin, je ne savais pas si j'avais fermé la porte ou pas, mais j'étais dans mon lit et c'était le moment où je doutais, je me dis « Est-ce que je me relève pour aller fermer ou pas, ou pour aller vérifier parce que je ne suis pas sûre ?» Et vu que j'étais en pleine lecture, je m'étais fait un peu tout un monologue toute seule dans ma tête en me disant « Mais si jamais j'ai quelqu'un qui vient pour cambrioler en soi, comment je peux réagir ?» Parce que je me dis, la personne qui en arrive a tellement mal dans sa vie qu'elle se retrouve à devoir cambrioler une vieille maison de campagne comme ça. Elle doit être tellement mal, je vais peut-être lui demander de quoi elle a besoin, parce que j'imagine qu'en fait, la personne qui vient de cambrioler, c'est qu'elle a vraiment besoin de quelque chose. Alors, je sais que ça peut paraître complètement barré, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et je me dis, ouais, ça révèle un potentiel d'empathie qui est énorme, de se connecter, de dire, ok, en fait, de quoi les autres peuvent avoir besoin, parce que ouais. Finalement, tout est une question de ça, quoi.
Eh oui. Et ce livre, c'est vrai qu'il... Enfin, après beaucoup de livres, mais celui-là particulièrement, j'avais envie que la terre entière le lise.
Oui, tout à fait. Moi, je l'ai beaucoup, beaucoup recommandé, exactement. Juste une dernière petite question pour conclure. Où est-ce qu'on peut trouver tes ressources pour les personnes qui seraient intéressées?
Ah, alors, sur bougribouillon.com.
Ok.
Bougribouillon, il y a un S parce qu'il y a plein de gribouillons.
Ok.
voilà, c'est maintenant, on a tout regroupé sur le même site, donc on peut voir et des articles qui parlent de ce que j'ai fait avec des sources, donc on peut cliquer pour aller plus loin sur chaque sujet, pour voir des vidéos, pour lire des articles, il y a aussi des livres qui sont proposés. Et aussi, il y a une partie boutique où là, je propose donc tous mes récits illustrés en format affiche. Maintenant, j'ai rajouté également un format à prix libre. Donc, les formats numériques HD sont payants. Les formats donc imprimés en A3 aussi sont payants, qu'on envoie nous-mêmes. Et il y a, maintenant, j'ai rajouté un autre format en plus petit, donc format A5, qui peut être même imprimé sur presque du A4, donc c'est une feuille d'imprimante normale, quoi. Et là, c'est à prix libre, donc, parce qu'en fait, souvent, on me les demandait où on prenait les images. J'étais OK avec ça, hein, pour prendre les images sur le blog, tout ça, mais les images, elles ne sont pas du bon format. Franchement, elles sont un peu, j'allais dire dégueulasses, ça ne se dit pas, mais je le dis quand même, parce que franchement, quand c'est tout pixelisé, c'est abusé. Donc, quitte à utiliser mes outils entre guillemets gratuitement, autant que ça soit joli. Voilà, et puis de toute façon on peut pas les imprimer sur du grand format, donc les personnes, enfin moi je pars du principe que le prix libre, si les personnes donnent très peu, et ben de toute façon elles n'auraient pas acheté les autres puisqu'elles n'avaient pas forcément les moyens de mettre plus. Voilà, c'est pareil pour les outils pour les enfants, donc la plupart des outils pour les enfants ont un format imprimé dans une boîte en format jeu, quoi. Avec des super imprimeurs dont le dernier qu'on a trouvé en France, et on est très contents. Pour les cartes yoga et prochainement les roues des émotions et les éventails des émotions. Voilà, et donc ces outils-là sont aussi disponibles en numérique à prix libre, à imprimer soi-même du coup. Donc là, à l'origine, eux, ils étaient déjà comme ça sur l'ancien site, mais c'était vraiment pour donner l'accès à tout le monde, parce que pour moi, ces outils-là, ils permettent de relier les adultes avec les enfants, et je veux à aucun moment que ça que ça soit un problème d'argent de pas proposer ça à un enfant, en fait. Donc voilà, donc après les gens donnent ce qu'ils veulent, des fois il y en a qui sont généreux parce qu'ils soutiennent le travail de fond, la plupart ne donnent rien, mais voilà, ça s'équilibre, et puis moi j'y perds rien parce que je sais que ces gens-là n'auraient pas forcément acheté le truc, et puis peut-être que ces gens-là, le jour où je ferai un financement, ils viendront mettre quelque chose pour soutenir le financement, enfin voilà, on fonctionne en financement participatif pour la plupart des outils qu'on va sortir en imprimé, parce que c'est des gros, on est une toute petite entreprise familiale, donc on ne peut pas du tout investir comme ça. Donc les financements participatifs nous permettent d'investir dans des nouveaux outils quand je crée quelque chose, ou dans une réédition quand il n'y en a plus. Voilà.
Super, merci de nous avoir expliqué si bien tout ça. À une prochaine, salut.
À bientôt, merci beaucoup.